Votre grand journal du soir se poursuit avec Mathieu Béliard, il est 19h.
L'information avec Théo Manvalet à la une. Théo, une troisième victoire judiciaire pour Paul François contre Monsanto.
La cour d'appel de Lyon a rendu son arrêt. Elle estime que la multinationale est responsable de l'intoxication de l'agriculteur charentais par l'herbicide Lasso. Monsanto n'a pas correctement indiqué la dangerosité du produit sur ses emballages, estiment les magistrats. Pour Paul François, qui s'est exprimé après l'audience, c'est évidemment un soulagement, mais aussi écoutez un message pour le gouvernement.
C'est un message à Agnès Buzyn, au ministre de l'Agriculture, au président de la République, qui avait dit qu'il prendrait ses responsabilités pour une autre agriculture, pour retirer le glyphosate. Il a les pouvoirs aujourd'hui, je pèse mes mots, il a les pouvoirs de trancher. C'est lui qui avait dit qu'il voterait une loi, qu'il ferait voter une loi pour retirer le glyphosate. Il ne l'a pas fait. Donc maintenant, on sait aussi pour qui il travaille, pour qui il roule pour Bayer. Je pense que ce soir, il pourrait avoir honte. Parce que derrière ça, c'est des gens qui souffrent, des gens qui sont malades. Et donc les politiques et le gouvernement actuel pourraient prendre ces dispositions. Agnès Buzyn, qui a tout fait pour empêcher la mise en place d'un fonds d'indemnisation que nous défendons depuis 3 ans, honte à elle aussi, parce que ses victimes demandent juste une réparation.
Paul François au micro de Laurent Pellet. Les avocats de Monsanto étudient encore l'idée d'un pourvoi en cassation et ils estiment, eux, que l'agriculteur est le seul responsable de la façon dont il a utilisé le produit. Écoutez Maître Jean-Daniel Bretzner.
La situation de Paul François est un cas totalement isolé. Il ne s'agit pas du tout d'un cas de figure dans lequel un agriculteur affirmerait souffrir de pathologie du fait d'une utilisation normale et continue d'un produit herbicide. Il s'agit d'un cas tout à fait différent, puisqu'en l'occurrence, M. François affirme qu'il souffre de pathologie liée à un accident, à une intoxication purement accidentelle. Donc cette décision est une décision qui ne peut en aucun cas provoquer ou susciter, par un effet en cascade, d'autres actions judiciaires. En aucun cas.
Maître Jean-Daniel Bretzner, joint pour Europe 1 par Pierre de Cossette. Ils étaient plus d'un millier dans les rues de Paris cet après-midi, même chose à Marseille ce matin. Les retraités ont à nouveau battu le pavé pour la 7e fois depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Ils réclament une amélioration de leur pouvoir d'achat, la suppression de la CSG pour tout le monde, mais surtout la réindexation de leur pension sur l'inflation. C'est ce que demande en priorité Martine, ancienne cadre du privé, rencontrée par Olivier Samin dans le cortège parisien.
J'ai travaillé 40 ans quand même pour l'obtenir. Vous voyez, je ne l'ai pas volé, c'est ça qui me révolte. Alors je veux bien payer la CSG comme tout le monde, mais qu'on me réévalue ma retraite normalement quand même. C'est inacceptable ça. Ce mépris, oui, vous êtes retraité, vous n'avez pas le droit d'être indexé. Mais pourquoi ? J'ai perdu au moins 60 euros là depuis 3 ans.
Alors le gouvernement semble vouloir faire un pas en arrière en disant on va réindexer sur l'inflation. Les petites retraites.
Voilà, et c'est ça. Alors ça, c'est pas normal. C'est pour tout le monde pareil. C'est la seule chose que l'on demande. Mais c'est trop, apparemment.
Martine, retraitée, ancienne cadre du privé avec Olivier Samin. À l'étranger, Julian Assange va s'opposer à la demande d'extradition formulée par les États-Unis, annonce ce soir son avocate. La justice américaine souhaite faire comparaître le fondateur de Wikileaks pour piratage informatique. Lui qui avait fait fuiter des milliers de documents internes au Pentagone en 2010. Julian Assange a été arrêté ce matin à Londres après 7 ans passés réfugiés à l'ambassade d'Équateur. L'Europe et les États-Unis demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU après le coup d'État militaire au Soudan. L'armée qui a renversé le président veut diriger la transition. Cette réunion d'urgence devrait avoir lieu demain. Alors que les députés ont voté définitivement la loi Pacte ce matin, pas forcément facile de trouver du travail dans un pays où le taux de chômage frôle encore les 9%. Et pourtant, la France a besoin de main-d'œuvre à tel point que Pôle emploi a dressé le bilan des secteurs où l'on a besoin d'embaucher. 347 000 projets de recrutement au total comptabilisés pour cette année, explique Stéphane Ducateil, directeur études et performances à Pôle emploi.
On a une très forte dynamique dans le secteur de la construction, 26% d'intention d'embauche. C'est la troisième année consécutive que ce secteur enregistre une bonne dynamique. On a également les services aux entreprises avec des progressions de 20% des projets de recrutement, avec notamment une bonne performance du transport et de la logistique. Le trio de tête des régions cette année, c'est les Pays de la Loire, suivi par la Normandie. Et les Hauts-de-France, les Pays de la Loire qui sont la région avec le taux de chômage le plus bas, et les Hauts-de-France au contraire qui sont la région avec le taux de chômage le plus élevé. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour cette région.
Stéphane Ducatez, directeur études et performances à Pôle emploi. Jean-Marie Le Pen condamné à 1500 euros d'amende pour possession d'armes non déclarées par le tribunal correctionnel de Nanterre aujourd'hui. En cause notamment un flashball et un fusil à pompe que des pompiers avaient découvert en intervenant chez lui pendant un incendie. C'était en 2015. Et puis Israël pourrait devenir ce soir le 4e pays de l'histoire à réussir à poser un engin sur la Lune. La sonde israélienne Bereshit doit allunir dans la soirée. Lancée le 22 février dernier, elle va se poser après avoir parcouru plus de 6 millions de kilomètres. Alors à quoi va-t-elle servir? C'est surtout un enjeu d'image, nous explique notre spécialiste espace Alain Sirou.
Les Israéliens vont sur la Lune pour faire la démonstration qu'ils en sont capables. Il s'agit d'une sonde privée. Elle devrait se poser avec ses quatre pattes à la surface de la Lune pour finalement faire très 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 peu de choses sur le plan scientifique, mais sa capsule héberge une Bible nanogravée, la déclaration d'indépendance d'Israël, des écrits des survivants de la Shoah. Et on est vraiment dans le symbole. On espère que cette société et ces jeunes ingénieurs vont réussir leur démonstration que eux aussi, avec finalement peu de moyens, mais beaucoup d'imagination et d'invention technologique, sont capables d'amener un petit atterrisseur à la surface de la Lune.
Notre consultant sur les questions spatiales, Alain Sirou.
Merci beaucoup Théo Manval, 19h05 sur Europe 1. Antoine est avec nous en ligne depuis le Pas-de-Calais, comme promis. Antoine au 39-21. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Notre question sur l'Europe, ce débat que nous avons eu à 17h40, je posais la question, avez-vous fait votre choix, irez-vous voter? Cette enquête de l'Institut BVA pour Orange, La Tribune et Europe 1 qui nous donne des intentions de vote. La République En Marche stable en tête, le Rassemblement National qui baisse un peu, les Républicains qui confirme la tendance et monte un peu, mais loin derrière. Antoine, irez-vous voter?
J'irai voter, effectivement, ça me paraît important, ça fait partie de nos devoirs de citoyens. Après, j'irai voter un petit peu par obligation, c'est plus quand je vois le contexte politique et sociétal du moment, avec toutes les, tout ce qu'on peut entendre aux actualités, les gilets jaunes entre autres, etc. Et j'ai surtout peur en fait, des montées des extrêmes. Et donc c'est ça qui va me faire aller voter, et plutôt voter pour un parti qui a la chance de, enfin, qui aura probablement le plus de chances de passer, et l'enquête le confirme, c'est-à-dire La République En Marche. Je pense qu'effectivement, beaucoup de personnes depuis tout à l'heure se plaignent du fonctionnement de l'Europe, mais je pense qu'on ne donne pas non plus les moyens à l'Europe de se développer comme elle devrait pouvoir le faire.
Alors,
pour
le fonctionnement de l'Europe, c'est un peu large. Vous entendiez Jean-Claude, par exemple, qui nous disait « Oui, je vais voter, oui, je crois à une Europe, mais pas celle-là, pas une Europe intégrée comme on l'a aujourd'hui, Antoine ».
Je pense que c'est un problème franco-français, toujours vouloir prendre les avantages d'un élément et sans en avoir les inconvénients. On ne peut pas avoir les avantages d'un groupe composé d'un certain nombre d'États sans en avoir les contraintes, à savoir qu'il faut forcément avoir des accords communs et une décision commune sur différents sujets. Donc on peut pas forcément prendre les avantages sans les inconvénients qui vont avec. Je pense aussi que le problème d'aujourd'hui en France, au niveau de l'Europe, ce que j'entendais que c'était un peu délaissé, c'est qu'en fait je pense que beaucoup de gens ne savent pas vraiment comment fonctionne cette Europe et son aspect gouvernement, enfin son fonctionnement de législation entre autres. Et je pense que c'est pour ça que les gens ne s'y intéressent pas, parce qu'on ne sait pas vraiment comment elle fonctionne, et c'est assez opaque pour beaucoup de citoyens, ce qui doit justifier, à mon sens, le taux d'absentéisme, enfin, le taux de prévision de non-participation à cette élection.
Merci Antoine.
Merci à vous.
L'enseignement principal de cette étude que je citais de l'Institut BVA pour Europe 1, l'enseignement principal reste le fait qu'un Français sur deux ne s'intéresse pas à ce scrutin dans moins de deux mois, les élections européennes. Merci Antoine d'avoir pris la parole ce soir au 39-21. Il est 19h08.
Europe 1.
Vous restez bien avec nous à suivre l'interview politique ce soir. Sonia Mabrouk qui reçoit Jean-Louis Bourlange, député MoDem des Hauts-de-Seine. Il est déjà en studio. On arrive dans quelques secondes.